europejskie.
Rozumienie da Europa.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi tis Evropis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. C'est le 710e numéro de Carrefour de l'Europe. C'est pour moi l'avant-dernier. Et au cours de ces deux ultimes émissions, nous allons nous poser une seule et même question, ô combien existentielle, en tout cas pour les Européens, mais pas seulement pour eux, je crois. Cette question, la voici. Et si l'Europe n'existait pas? Elle peut paraître saugrenue, et pourtant, si au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, des hommes politiques visionnaires n'avaient pas imaginé une Europe unie et non plus revancharde, serions-nous en paix aujourd'hui? L'Europe serait-elle devenue le plus grand espace démocratique de la planète? Comment vivraient les Européens dans un continent morcelé? Quelle serait la place des différents pays européens dans un monde où les grands ensembles que sont les États-Unis et la Chine s'imposent chaque jour un peu plus? Un retour en arrière est-il possible? Le modèle européen, longtemps plébiscité, est aujourd'hui remis en cause sur le plan intérieur par la montée des populismes et à l'extérieur par des pays autoritaires ou dictatoriaux qui voient en l'Europe un monde déclinant sur le plan moral et économique. D'où cette question, et si l'Europe n'existait plus? Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Yves Bertoncini.
Bonjour.
Vous êtes conseiller en affaires européennes et président du mouvement européen France. À chaque fois, j'aime bien que vous vous rappeliez un peu ce qu'est ce mouvement européen France.
Un mouvement créé pratiquement en même temps que la construction européenne, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, et qui, en France, milite pour le débat public sur l'Europe, la pédagogie sur la construction européenne et puis aussi son renforcement.
Bon, on va faire encore un peu de pédagogie au cours de cette émission. Giuliano D'Ampoli, bonjour.
Bonjour.
Buongiorno. Vous êtes le président du think tank Volta, essayiste et écrivain. Votre dernier livre, Les ingénieurs du chaos, est paru il y a 2 ans peut-être, hein. C'est Jean-Claude Lattès. Sébastien Maillard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'Institut Jacques Delors. Pas un petit mot quand même sur cet institut avec ce personnage emblématique, Jacques Delors.
Institut fondé par Jacques Delors il y a cette année 25 ans et qui est un laboratoire d'idées pour faire avancer l'intégration européenne.
Guten Tag, Daniela Schwarzer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice des Open Society Foundations sur le domaine de l'Europe et de l'Eurasie. Et vous êtes par ailleurs professeur en sciences politiques à la Freie Universität de Berlin. On ne connaît pas forcément très très bien Open Society.
Oui, alors c'est une fondation qui s'occupe de l'état de droit, de la démocratie, des droits de l'homme, qui a été fondée par George Soros, qui aujourd'hui a 90 ans. Et c'est un réseau de fondations, beaucoup d'entre elles indépendantes, dans la région Europe et Eurasie, qui luttent tous pour le même objectif, c'est-à-dire des sociétés ouvertes, la démocratie, les droits de l'homme. Et voilà, donc je pense il y a beaucoup, comme on va peut-être en parler, on a des États en Europe où ça ne pose aucun problème, mais on a d'autres, surtout
c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué.
Voilà.
On a compris. Merci Daniela d'être en ligne de Berlin. Et puis comme chaque semaine, nous ferons un détour par la rédaction de Courrier International, cette semaine avec Valentin Scholz. Ivan, si on prend comme point de départ de la construction européenne, la naissance de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, c'était en 1951, donc il y a tout juste 70 ans, plus ou moins 3 générations, hein, ça fait plus ou moins 3 générations que l'Europe est présente dans l'esprit des Européens et une grande majorité la considère comme une évidence. On oublie donc un peu facilement la difficulté qu'il y a eu à construire pas à pas d'abord une communauté, puis une union. Alors, on va pas refaire avec vous, Yves Bertoncini, toute l'histoire de cette construction, mais en quelques mots, un projet un peu fou au lendemain de la guerre, porté par des hommes de conviction.
Porté par ce qu'on a appelé les pères fondateurs de la construction européenne, ils ont voulu faire prévaloir une logique coopérative. Je dis tout de suite, ce n'était pas gagné, puisque après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui peut d'ailleurs se comprendre, hein, sur les braises de la catastrophe, le traité de Dunkerque, par exemple, en 1947, est un traité de défense franco-britannique contre l'éventuelle résurgence du nationalisme allemand. Mais les pères fondateurs, donc on parlait de Jean Monnet, si on parle de la CECA, Robert Schuman, qui est en voie d'être consacré par l'Église catholique, Alcide De Gasperi, je le dis devant notre ami italien, Paul-Henri Spaak, Bayen, Beck, etc. Donc ces pères, il n'y avait pas de femmes à l'époque, les pères fondateurs ont permis de lancer l'aventure. La CECA, Communauté Charbon de l'Acier, 70 ans, pas très célébrée en France, il aurait fallu faire plus. Mais ce que ça a tout de suite montré les débuts dans les difficultés que vous évoquez, c'est que la communauté européenne de défense qui a été proposée juste après, elle a été rejetée d'ailleurs par les Français, par une coalition de gaullistes, de communistes et quelques centristes de gauche, on va dire. Donc ça n'était pas une évidence déjà à l'époque. La génération d'après, celle des, on va dire, des fils fondateurs, bien, il y a Jacques Delors qui en a fait partie, bien sûr, François Mitterrand, Helmut Kohl, ceux qui ont tiré les conséquences, non pas de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais de la fin de la guerre froide. Et ça a notamment été le traité de Maastricht, la création de l'Union européenne et de l'euro. Et puis je dirais qu'aujourd'hui, dans une Europe qui ne pèse plus, alors nous les Européens, après le Brexit, on est 5,5% de la population mondiale, quand on regarde le monde, l'Union fait la force, ça c'est la théorie. Et le défi à relever, c'est celui de la génération suivante, c'est-à-dire, là, je dirais, les petites filles et les petits-fils. Puisqu'on est sorti du despotisme éclairé des pères fondateurs, aujourd'hui, c'est la tâche de chacun d'entre nous. Parce que tout ça, c'est à la fois l'intérêt et la difficulté de la tâche, ça se fait dans un contexte démocratique, hyper démocratique, avec des peuples qui s'expriment, des citoyens, des ONG, de grandes divisions d'ailleurs entre les opinions publiques des 27. Moi, je trouve que ça rend la tâche encore plus nécessaire et exaltante.
Eh ben, on va développer un peu tout ça. Mais avant de poursuivre, j'ai envie de faire un petit tour de table en vous posant tout bêtement cette question. Si l'Europe n'existait pas, qu'est-ce qui vous vient immédiatement à l'esprit, Sébastien Maillard ?
Effectivement, c'est une question qui mérite d'être posée, puisque, en fait, souvent, l'Europe existe et on ne la voit pas. Moi, si j'avais pris, par exemple, le TGV ce matin pour venir à Paris, peut-être que la ligne grande vitesse sur laquelle mon train circule a été financée par un prêt de la Banque européenne d'investissement. Sans doute que les vaches qui regardent passer ce train ont un éleveur qui reçoit des aides de la PAC. L'euro dans ma poche, l'étudiant Erasmus assis à côté de moi dans le train, la chapelle restaurée par des fonds européens. Donc en fait, l'Europe existe, mais on ne la voit pas. Et c'est peut-être ça, souvent, qui rend la question un peu compliquée. C'est que il faut arriver jusqu'au Brexit, à ce qu'il y ait une sortie d'un pays de l'Union européenne, pour que tout d'un coup, un peu par défaut, ou par une sorte de démonstration par l'absurde, on se rend compte de ce qui existait, qu'on ne voyait plus.
Et là, à l'occasion, on peut dire que l'Europe, l'Union européenne n'est pas une prison, parce qu'on peut facilement on peut en sortir, c'est compliqué.
On a le droit.
Mais on peut en sortir, on a le droit. Giuliano D'Ampoli, et si l'Europe n'existait pas ?
Écoutez, moi j'ai une conception relativement basique de la politique, c'est-à-dire je pense que la politique, fondamentalement, ça sert aux êtres humains pour ne pas se taper dessus. Et donc, je crois très simplement que si l'Europe n'existait pas, le niveau de violence à tous les niveaux dans notre continent, qui en a connu beaucoup par les siècles, serait beaucoup plus élevé. Et on l'a vu même pendant l'histoire de la crise de la Covid. Et bien sûr qu'il y a eu des problèmes, des questions, des retards, des pagailles et tout ça. Mais à chaque moment, je crois, à chaque passage important de cette crise, on a vu que ça n'a pas marché d'ailleurs quelquefois, surtout au début, il y a eu quand même beaucoup de cafouillages. Mais à chaque passage de cette crise, inclut la dernière phase des vaccinations, on peut quand même se dire qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu d'Europe, qui pourtant d'ailleurs n'avait au départ pas de compétences en matière sanitaire, donc elle n'existait pas véritablement, l'Europe.
On va revenir sur ce point de la campagne de vaccination et des vaccins contre le Covid en Europe, qui évidemment sont très révélateurs d'une certaine résilience de l'Europe. Daniela Schwarzer, et pour vous, si l'Europe n'existait pas?
Tout d'abord, c'est la mobilité qui n'existerait pas, parce que, comme ça a été dit, alors la possibilité pour nous tous de bouger librement d'un pays à l'autre, d'aller vivre dans un autre pays, d'aller faire nos études, d'aller travailler, je pense que c'est un grand, grand atout de notre Union européenne qu'on puisse le faire. Et moi, si je n'avais pas eu l'occasion de faire une année d'Erasmus, en France, je ne serais pas parmi vous aujourd'hui parce que mon français ne serait pas très développé. Donc je pense que c'est un grand atout. Ensuite, je veux peut-être attirer notre attention vers l'international. Nous sommes quand même dans une ère de compétition, une compétition systémique entre des systèmes qui s'opposent, les démocraties telles que nous les aimons en Europe, mais aussi, en outre un système chinois, autocratique, qui se pèse de plus en plus sur la technologie, non seulement pour contrôler ses propres citoyens, mais aussi pour élargir son influence dans le monde. Et si nous, en tant qu'État individuel, nous serions face à ce grand pouvoir international, ce serait beaucoup moins possible pour nous de protéger notre propre système et les valeurs que nous partageons en Europe.
Yves Bertoncini, j'ai déjà posé au cours des émissions précédentes cette question à Plantu, le dessinateur du Monde, qui est maintenant à peu près sa retraite. Je lui dis, Plantu, si l'Europe n'existait pas, il m'a dit, ce serait la guerre.
Ce que vient de dire Giuliano, chacun à leur manière, Daniela, c'est que ça offre un cadre pour le règlement pacifique des différends. Voilà. C'est le chapitre 6 de la Charte des Nations Unies. Chapitre 7, c'est le recours à la force. Le chapitre 6, c'est le règlement pacifique des différends. Ça ne fait pas disparaître les différends. Il suffit de regarder l'Europe d'aujourd'hui, il y a beaucoup de différends. Mais ça offre un cadre, une habitude, y compris d'ailleurs, et Giuliano l'a rappelé, quand face à une crise sanitaire, l'Union européenne n'est pas dotée des compétences et on a renforcé peu à peu ses compétences. Mais au moins, on a le cadre politique, les habitudes. Regardez, Angela Merkel, elle fait partie de nos vies depuis 15 ans. Elle va partir, ça va nous faire drôle, pour le meilleur et pour le pire, du reste. Mais il y a eu des habitudes. Et donc, c'est ça, l'Europe. C'est le règlement pacifique des différends. Et je veux insister là-dessus parce que souvent, on a dit, oui, mais la construction européenne, c'est pas elle qui a établi la paix, c'est la guerre froide, c'est la dissuasion nucléaire. Oui, mais sauf qu'il suffit de voir que dans les autres pays, juste à côté de nous, je pense à l'ex-Yougoslavie, où ce travail n'a pas été accompli, ce travail d'acculturation, de connaissances réciproques, eh bien, on a enlevé la guerre froide et on a eu la guerre. Pas en Europe, parce qu'en Europe, dans l'Union européenne, dans la communauté économique européenne, eh bien, il y a eu un grand travail de réconciliation et d'habitude, de dialogue et en effet de réduction de la violence dans la résolution de nos différends.
Sébastien, vous vouliez réagir.
Non, sur un terrain plus pacifique et de grande actualité, si la campagne de vaccination a eu la réussite qu'elle est en train d'avoir aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, il y a eu une coopération européenne, des concurrents qui ont voulu bien produire pour les autres, une répartition pro rata des populations des doses produites et bien sûr aussi des vaccins achetés sur le marché en commun. Et là, on a une belle démonstration de ce que l'Europe est capable de faire à plusieurs. Et si elle n'existait pas, effectivement, on n'en serait pas là. Je pense que je ne serais vraiment pas vacciné.
Alors, puisqu'on a évoqué les vaccins, nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International, qui est le partenaire historique de Carrefour de l'Europe. Et on va rejoindre Valentin Scholz. Bonjour Valentin.
Bonjour Daniel.
Alors pendant la crise sanitaire, justement, vous l'évoquiez à l'instant, Sébastien Manière, l'Union européenne a quelque peu tangué, vous l'avez évoqué les uns et les autres, mais pour El Confidencial, le quotidien espagnol de Madrid, elle s'en est plutôt bien sortie.
Durant la crise sanitaire, l'Union européenne a connu des remous, mais d'après ce journaliste espagnol, elle s'en est sortie. Ce qui ne tue pas l'Union européenne la rend plus forte. C'est en tout cas ce qu'écrit Nacho Alarcón, qui est le correspondant à Bruxelles du média El Confidencial. Pour lui, l'Union européenne a eu mille occasions de commettre des erreurs fatales durant la crise sanitaire et pourtant, elle a tenu bon. Alors quel constat fait-il ? Eh bien, aujourd'hui, la vaccination progresse plus ou moins bien dans tous les pays membres. Et puis surtout, les plans nationaux issus du Fonds de relance européen commencent à être validés par la Commission européenne. Ils seront d'ailleurs appliqués dans chaque pays dès cet été. Ce fonds de relance, c'est vraiment la clé pour l'Europe, estime Nacho Alarcón, d'une part parce qu'il permet à Bruxelles de promouvoir la transition écologique et numérique, et d'autre part parce qu'il prouve que la dette publique européenne n'est plus une chimère.
Alors justement, Valentin, maintenant, qu'est-ce qui attend l'Union européenne dans les prochains mois ?
En matière économique, on le répète, la mise en œuvre des plans de relance. Il y aura ensuite toutes les questions liées au leadership européen, qui était jusque-là incarné par Angela Merkel, mais on le rappelle, la chancelière quittera le pouvoir en Allemagne en septembre. D'ailleurs, le journaliste d'El Confidencial nous rappelle que plusieurs élections sont à venir en Europe, en France par exemple, au printemps 2022. Ces scrutins, ils auront sûrement des conséquences, à la fois pour la place, mais aussi pour l'image de l'Europe dans le monde, notamment face aux États-Unis ou à la Chine. Mais pour Nacho Alarcón, l'UE n'a aucun souci à se faire. Malgré la crise sanitaire, elle a toujours défendu ses valeurs et toujours défendu ses priorités. Le multilatéralisme et la lutte contre le réchauffement climatique en font d'ailleurs partie. Bref, en résumé, on peut dire que l'optimisme est de rigueur dans les capitales européennes.
Merci Valentin Scholz, courrier international Libdo et courrier international.com, le site. Alors, Daniela Schwarzer, on ne vous a pas entendu, mais sur ce thème de la vaccination, il y a eu quelques réticences au départ en Allemagne, parce qu'on disait que ça n'allait pas assez vite, et que si les Allemands avaient pu acheter des vaccins tout seuls, peut-être que ça aurait été beaucoup plus rapide. Maintenant, il s'est passé quelques mois, finalement, on constate que plus d'un Européen sur deux a reçu au moins une première dose, et c'est une très belle performance au niveau mondial. C'est intéressant, Julien Pompili l'évoquait, l'Europe n'a pas de compétences en matière de santé, et pourtant, elle a réussi à prendre le train en marche, et elle a réussi à progresser sans vraiment le dire.
C'était très important que l'Union européenne a su faire cela. Comme vous l'avez évoqué, il y avait beaucoup de critiques en Allemagne par rapport à la lenteur de la mise en œuvre des vaccinations dans notre pays, mais aussi au sein de l'Union européenne plus globalement. Mais en même temps, la Commission européenne a fait plusieurs choses au-delà des vaccinations, notamment l'achat des masques, du matériel médical, etc. Donc c'est important que ce soit mis en place, non seulement pour avoir des provisions, mais aussi pour être préparé pour une prochaine crise sanitaire, parce qu'il fallait inventer les mécanismes, il fallait décider que l'Union européenne devrait faire cela au plein moment de la crise. Et donc on a vu une deuxième fois après la crise de l'euro de l'année 2010 et les années suivantes, où en gérant une crise, on a en même temps établi des politiques ou bien des mécanismes de coopération. Ça ne veut pas dire que je veux argumenter pour une démarche seulement par les crises, mais c'est très important que l'Union européenne sache se renforcer au moment d'une crise. Et aujourd'hui, le débat est très important de regarder au-delà des mécanismes qui sont en place aujourd'hui pour voir s'il ne fallait pas un transfert de compétences pour avoir une politique de santé qui soutient une idée fondamentale du marché intérieur, et c'est la libre circulation des personnes. Parce que ce qu'on a vu au printemps 2020, c'est effectivement, on veut que les gens bougent, on les encourage à aller s'implanter dans un autre pays européen, notamment dans les régions frontalières. On veut que les gens transgressent les frontières comme si elles n'étaient plus là. Et tout d'un coup, la crise sanitaire fait en sorte que la seule protection pour les citoyens, c'est par le propre gouvernement national. Et on doit sortir de ce mécanisme, sinon on risque d'affaiblir le marché unique et la libre circulation des personnes.
Ce que vient de dire Daniela Schwarzer, c'est intéressant, je l'ai dit dans Poli, parce que finalement, ce n'était pas une compétence européenne, la santé. Finalement, l'Europe a su prendre le train en marche. Et si elle ne l'avait pas pris, il y aurait eu une énorme critique des Européens. C'est-à-dire qu'on attend beaucoup de l'Europe, en permanence, les Européens attendent beaucoup de l'Europe, et en même temps, elles sont toujours prêtes à critiquer sans savoir exactement quel est son domaine de compétence.
Bon, je ne voudrais pas être celui qui prend le rôle de l'Italien pessimiste, disons, mais par rapport à l'optimisme dont parlait aussi votre correspondant au Courrier international, dans les capitales européennes et tout, moi je suis un peu moins optimiste, c'est-à-dire que je crois que l'histoire de cette année, elle prouve encore une fois que sur le plan concret, c'est une histoire d'une année de succès pour l'Europe. Hein, il y a des pas extraordinaires qui ont été faits. Ça a commencé d'ailleurs avant la pandémie avec l'approbation du European Green Deal. Après, ça a continué pendant la pandémie avec quelques difficultés, mais comme vous le disiez, avec énormément de progrès qui ont été faits. Et puis le plan de relance qui est une étape historique, etc., etc. Par contre, d'un point de vue symbolique et de la perception que les gens ont eue de cette année. Sommes-nous certains que ces opinions publiques ont eu la perception de ces progrès très importants qui ont été faits pendant cette année? Est-ce qu'ils n'ont pas plutôt, notre amie allemande en parlait, eu à certains moments des perceptions différentes, même aujourd'hui? qu'est-ce qu'elles perçoivent? Est-ce qu'elles n'ont pas vu des cafouillages, des discussions, des choses, des retards qui ont les sur les retards? On a beaucoup discuté aujourd'hui sur le succès d'ensemble de la campagne de vaccination. Beaucoup moins de publicité, disons. Le récit d'ensemble de cette année, les images fortes que les gens retiendront, les images virales. Est-ce que ce n'est pas Madame von der Leyen qui ne trouve pas son siège à Ankara ou d'autres images? Est-ce qu'il n'y a pas encore une fois une déconnexion quand même très forte entre le réel et le symbolique, entre la raison et le sentiment, qui reste quand même un peu le grand problème et, à mon avis, le grand risque pour le futur de l'Europe?
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, et si l'Europe n'existait pas, c'est le premier chapitre, prochain chapitre 2, ce sera la semaine prochaine. Nous sommes avec Yves Bertoncini, conseiller en affaires européennes et président du mouvement européen France, avec Giuliano D'Ampoli, qu'on vient d'entendre, président du think tank Volta, avec Sébastien Maillard, directeur de l'Institut Jacques Delors, et avec Daniela Schwarzer, directrice des Open Society Foundation, plus spécialement responsable du secteur Europe et Eurasie. Yves Bertoncini, ce que vient d'expliquer finalement Giuliano D'Ampoli, c'est-à-dire la réalité de l'action européenne et la perception qu'on peut en avoir, c'est un problème fondamental de l'Europe, parce que les Européens vivent avec le sentiment que l'Union européenne a toujours existé. 70 ans, c'est déjà trois générations. Et la construction européenne, c'est une succession de petits pas, pas de grands sauts en avant, pas de grands bonds. Ce n'est pas très spectaculaire. C'est perçu un peu comme bureaucratique, éloigné de la préoccupation des gens. Il y a une réalité européenne qui n'est pas toujours perçue. Il y a un décalage.
Oui, mais que ça puisse être éloigné, c'est pas complètement illogique. C'est un peu comme Washington aux États-Unis, dans un système fédéral. Washington est là-bas. Washington s'occupe plutôt du reste du monde, d'ailleurs. Et puis, quand on vit en Californie, ça nous paraît assez loin. Et c'est le gouverneur de Californie qui a les pouvoirs. Si on duplique, c'est pas tout à fait comparable, mais en Europe, que Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg, Francfort, ça paraît s'éloigner, n'est pas complètement illogique. Mais ce qu'a très bien dit Sébastien juste avant, c'est qu'il y a un problème d'incarnation et de visibilité. Et la visibilité des actions n'est effective que s'il y a une incarnation par les personnes. Madame von der Leyen, en ce moment, elle est en train de faire un tour d'Europe pour faire le service après-vente du plan de relance. Je crois qu'elle a raison, hein, d'ailleurs, de le faire. Simplement, au moment de la crise sanitaire, il aurait fallu qu'elle aille en Italie incarner la solidarité européenne et ne pas laisser les Russes et les Cubains faire ça. Parce qu'il se trouve que quelques mois avant, elle était allée en Grèce sur les sujets migratoires, où elle était peut-être un peu plus à l'aise, pour incarner la solidarité européenne. Donc là, il y a eu une défaillance d'incarnation. Ensuite, juste pour aller un peu plus dans le fond de ce qu'a dit Giuliano, qui me paraît très intéressant, moi, ce que je regarde quand on parle des Européens, les Européens, ils sont unis dans la diversité. Alors, on peut dire que les citoyens européens, quand ils regardent l'Union européenne, ont des aspirations convergentes. Je crois qu'on peut à peu près dire, quand on regarde les sondages d'opinion, les eurobaromètres, les élections, que globalement, ils veulent une Europe plus démocratique, plus verte et, si possible, plus influente, je dirais, dans le monde. Mais il y a beaucoup de sujets, en revanche, qui sont clivants entre Européens. On parle du plan de relance. Je le dis, nos amis italiens l'attendent, mais nos amis néerlandais, en tout cas la majorité des Néerlandais, ils n'en voulaient pas parce que c'est une solidarité financière qu'ils rechignent à consentir. Si on regarde les sujets migratoires, même chose, il y a des clivages entre les Européens qui voient les migrants, les demandeurs d'asile comme des victimes et d'autres qui les perçoivent comme des menaces à tort, sans doute, mais n'empêche que c'est réel. Et même chose en matière de défense. Dernier exemple, en matière de défense, on a encore vu récemment sur les relations avec la Russie, les États-Unis, il y a de grandes divergences. De sorte que, évidemment, il ne faut pas penser que l'Union européenne pourrait être aimée ou approuvée par l'ensemble, d'abord, des citoyens du même pays. C'est normal, il y a un pluralisme démocratique, on l'a bien vu en France, mais aussi par l'ensemble des citoyens de tous les pays de l'Union européenne. Il faut, au contraire, accepter cette forme de diversité. Alors évidemment, dans le respect des valeurs communes, des règles communes, des politiques communes, et puis essayer à chaque fois de convaincre, je dirais, la moitié des citoyens d'un pays donné. C'est en cela que je dis que l'avenir de la construction européenne est à inventer et à réinventer, parce qu'elle existe, la construction européenne. Mais ce qu'elle va devenir est entre les mains non pas seulement des responsables politiques des 27, mais aussi des ONG, des opinions publiques, des syndicats, des acteurs et in fine des citoyens.
Sébastien Maillard, on va un petit peu faire évoluer le débat. Si l'Union européenne et son marché unique de 450 millions d'habitants et de consommateurs n'existaient pas, à quoi ressembleraient les 27 pays de l'Union dans ce vaste monde? J'ai envie de reprendre une formule, je crois qu'elle est de Paul-Henri Spaak, donc l'un des pères fondateurs de l'Europe. En Europe, tous les pays sont petits, même si certains ne le savent pas. Hein. Je crois que c'est Paul-Henri Spaak qui a dit ça. Finalement, ce serait 27 petits pays avec deux grands ensembles, les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre, et des grands ensembles qui prennent de plus en plus de place dans tous les domaines économiques, culturels, politiques, géopolitiques.
Oui, on le voit effectivement face à la Russie, face à la Turquie, face à la Chine ou face aux États-Unis. Moi, je citerais plutôt aussi Paul Valéry qui avait comparé le continent européen à un petit cap asiatique, donc une sorte de péninsule. Effectivement, on est un petit continent, 450 millions, c'est on a perdu le pourcentage de la population mondiale et en plus on a un continent vieillissant. Donc effectivement, notre force n'est pas forcément démographique. Mais on voit bien que c'est seulement si on arrive à être unis que par exemple on osera faire peut-être une taxe numérique ou qu'on osera poursuivre telle ou telle entreprise des GAFA pour mieux faire respecter nos données personnelles. C'est effectivement lorsqu'on est unis ainsi qu'on ose peut-être mettre en place, comme sera annoncé le 14 juillet prochain, une taxe carbone aux frontières. Donc c'est des choses que l'on ne réussirait jamais tout seul. Et je dirais si l'Europe n'existait pas, la France existerait encore moins là-dessus. Effectivement, parce que c'est des choses, c'est des coûts que vous ne pouvez pas vous permettre de faire tout seul.
Daniel Schröder, si l'Europe n'existait pas, est-ce que l'Allemagne existerait un peu moins? Alors, la question se pose, parce que comment l'Allemagne voit sa place en Europe entre les États-Unis et la Chine? Alors, on se souvient de cet accord du 30 décembre, du réveillon de l'année de 2020, où subitement, il y a eu un accord entre l'Union européenne et la Chine à propos des investissements réciproques, un accord qui, semble-t-il, aura bien du mal à voir le jour puisqu'il a été déjà rejeté par le Parlement européen. Un pays comme l'Allemagne, grand exportateur, qui a toujours des Mercedes, des BMW ou des Volkswagen à vendre, notamment aux Chinois, comment elle voit sa place entre l'Europe et la Chine dans un esprit européen?
L'Allemagne est aujourd'hui la quatrième économie du monde. Et donc, on pourrait penser qu'elle pourrait exister toute seule. Mais à mon avis, ce n'est pas vrai du tout, parce que l'Allemagne bénéficie d'une manière extraordinaire de l'intégration européenne, notamment du marché intérieur, mais aussi de la monnaie unique. Tout le modèle de croissance économique allemand est vraiment basé sur la possibilité d'exporter vers le marché unique, mais aussi d'exporter vers le monde. Et l'euro certainement soutient la compétitivité de l'Allemagne en Europe, mais aussi dans le monde. Et donc, l'Allemagne a construit des liens très très étroit avec d'autres économies du monde. Vous venez d'évoquer la Chine. Effectivement, les liens entre la Chine, l'économie chinoise et l'économie allemande sont importantes. D'où vient la question, est-ce que l'Allemagne a vraiment l'autonomie politique de se décider, de prendre des mesures de protection ou bien de formuler des critiques vis-à-vis de la Chine? C'est un peu le débat du moment parce que l'Allemagne va élire un nouveau gouvernement en automne. Et la question qui se pose dans ce conflit mondial entre les systèmes des démocraties et ensuite l'autoritarisme chinois, est-ce qu'on a assez d'indépendance? Et est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on a moins de dépendance, notamment en matière d'investissement et d'exportation? Et alors, d'où vient l'importance de l'Europe pour l'Allemagne? Parce que s'il y a un recentrage, notamment des chaînes de production, par exemple, ce serait peut-être dans le voisinage européen ou même au sein de l'Union européenne, s'il y a des entreprises qui décident que finalement le risque en Chine est trop élevé. Et donc, à mon avis, l'Allemagne a un fort intérêt, malgré sa puissance économique, de faire en sorte que l'Europe s'intègre davantage, notamment l'euro, pour s'assurer du fait qu'il peut persister.
Alors, l'Europe par rapport à la Chine pose un vrai problème parce que la Chine est entrée en guerre contre l'Occident et donc contre l'Europe. Pour la Chine, l'Occident et donc l'Europe et l'Union européenne, c'est une région en déclin et moralement décadente. Or, ce sont nos valeurs que la démocratie, le respect des libertés, l'état de droit, et voilà, j'en passe, qui font les socles de l'Union européenne, qui sont mis en cause par un pays comme la Chine, immense pays s'il en est. Donc, je veux dire, comment l'Europe peut défendre un peu son attractivité qui était réelle? Pendant très longtemps, on a cru que par capillarité, l'Union européenne allait étendre ce qui fait ses valeurs en Afrique, en Asie, en Amérique latine et à la surface du globe. Et c'est de moins en moins vrai, Giuliano D'Ampoli.
Oui, c'est-à-dire nous sommes sortis d'une phase peut-être un peu naïve qui avait démarré surtout avec la chute du mur de Berlin et les années 90, où on pensait en effet qu'il y aurait une convergence de plus en plus nette par rapport à un cœur, disons, de valeurs, de démocratie libérale que certains voyaient comme l'aboutissement de l'histoire humaine, et vers laquelle en effet tout le monde d'une façon ou de l'autre, à un rythme ou à un autre, aurait convergé. Aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas le cas, et je partage assez l'avis. C'était d'ailleurs l'avis d'un journaliste du même journal espagnol que
El Confidencial
qui était cité avant. Ils ont un très bon columniste qui s'appelle Esteban Hernández, et lui, il a dit, il n'est pas le seul, je crois, mais il a été un des premiers à dire comme le XXe siècle a commencé avec plusieurs années de retard avec la Première Guerre mondiale, le XXIe siècle, il commence maintenant avec cette crise, et on voit très bien quel est l'autre pôle, disons, de l'alternative par rapport au modèle européen ou occidental, qui en effet est représenté par la Chine à tout point de vue, donc d'un point de vue de puissance, d'ailleurs bien plus considérable que celle de l'Union soviétique en termes économiques, et d'un point de vue idéologique, culturel, de valeur et même de capacité, justement, d'attractivité et de capacité de par le monde à faire converger des autres pays et des autres réalités vers ce modèle-là. D'ailleurs, le terrible parallèle qu'on fait par rapport à la construction par le même architecte Norman Foster des deux terminaux d'aéroport, un à Londres qui a pris plus que 10 ans, et l'autre, je crois, à Pékin, je ne me souviens pas si à Pékin ou à Shanghai, en un an et demi, est, disons, un des nombreux arguments qui sont utilisés pour faire valoir l'efficacité du modèle chinois. Et ce qui est inquiétant, je trouve, par rapport à ça, et ce qui devrait provoquer un sursaut européen, à mon avis, c'est que nous sommes... ce modèle chinois, il n'est pas que chinois, de mon point de vue. Non seulement parce qu'il y a des intérêts économiques très importants en Europe et ailleurs qui sont plutôt du côté, disons, qui pendent plutôt vers le côté chinois, mais aussi parce que une certaine conception de la vie et de rôle de l'individu et du fonctionnement de la société qui est quand même assez typiquement européenne, elle est menacée aussi par d'autres puissances, à mon avis, pour dire ça de façon un peu violente. Moi, je pense que les ressemblances entre Google et le Parti communiste chinois sont très fortes en termes de conception, disons, de la société, de la façon optimale de gérer une société. Et ça, je trouve que ça met vraiment l'Europe, les institutions européennes et même les peuples européens dans la condition d'avoir quelque chose de très important à défendre et pour quoi se battre.
L'Europe au pied du mur, nous explique Julien Nano d'Impoli. Yves Bertrandini, vous voulez réagir?
Oui, ça définit bien l'époque que nous vivons. L'Union européenne, la construction européenne est née après la Deuxième Guerre mondiale. Elle s'est approfondie après la fin de la guerre froide. Et ce que nous vivons maintenant, c'est la fin de l'ordre occidental, en gros. La domination occidentale sur le monde. La Deuxième Guerre mondiale, c'était la fin de la domination européenne sur le monde. C'était une parenthèse de 5 siècles depuis la découverte de l'Amérique, qui n'avait pas attendu qu'on la découvre pour exister, mais on continue à dire qu'on l'a découvert. Bref, on est là maintenant dans un monde où effectivement la Chine émerge puissamment avec un modèle alternatif. Moi, je pense que si on pouvait vraiment sonder les Chinois, si la presse était libre, l'opinion publique, je suis pas sûr qu'ils seraient contre une démocratie libérale. Ce qu'avait dit Hegel, c'était ça à la fin de l'histoire, c'est que veut l'humanité ? La lutte pour la survie matérielle dans des bonnes conditions de vie et puis aussi la reconnaissance, le respect de sa dignité. Donc peut-être bien qu'au fin fond de l'âme chinoise, cette aspiration existe. Mais ce n'est pas la seule, évidemment. C'est un système autoritaire, pour ne pas dire dictatorial, qui est là, qui est une grande civilisation en même temps et qui nous défie. Alors, vous dites, qu'est-ce qu'on peut faire ? L'Europe, si elle n'existait pas, alors on le voit quand elle existe. Quand elle existe en matière de politique commerciale, c'est une vieille compétence, ben on négocie d'égal à égal avec les Chinois. Et puis si l'accord d'investissement, on n'en veut pas, ben on n'en aura pas. Voilà. Et pour l'instant, le Parlement européen n'en veut pas. En matière de concurrence, on a une politique européenne fédérale. Et on peut dire non à Google, on les embête, hein, Google, Amazon et tout cela. Mais le problème, c'est que c'est inachevé et que dans d'autres secteurs, alors là, oui, pour le coup, elle n'existe pas assez. En matière diplomatique, notamment en matière militaire, l'Union ferait la force. Sauf que, on le voit bien, les Européens sont divisés. Et je dirais, si je veux être plus positif, que c'est donc là qu'il faut progresser, qu'il faut avancer sur tous les sujets où les Européens sont encore trop peu unis pour peser au niveau international. Parce que nul doute que c'est ça maintenant le momentum. C'est que nous sommes certes unis dans la diversité, mais que si on regarde au-delà de nos différences par la fenêtre de notre maison commune, par les fenêtres, il y a énormément de défis. La Chine en incarne plusieurs à la fois, qui justifie que nous soyons davantage soudés et cohérents au cours des prochaines décennies.
Daniel Schwarzer, vous évoquez dans votre présentation d'Open Society un peu vos centres d'intérêt, et on a évoqué un peu ces pays illibéraux en Europe. Justement, est-ce que vous diriez que l'Union européenne et l'Europe a perdu de sa cohésion avec l'élargissement à l'Est ? Je parle évidemment de la Hongrie et de la Pologne, qui ont une autre vision de l'organisation du monde et de la société.
L'élargissement à l'Est comprend beaucoup de pays. Et il y en a quelques-uns dans lesquels ces questions de démocratie et aussi de l'état de droit posent un vrai problème, notamment en Pologne et aussi en Hongrie. Mais en même temps, il y a d'autres. Et il est très intéressant de regarder vers les pays baltiques où on peut constater que ce sont des petits pays, mais très modernes, vraiment très bien avancés en tout ce qui concerne, par exemple, la digitalisation, aussi la manière dont l'État interagit avec ses citoyens. Donc là, on ne peut pas du tout dire qu'ils ne poursuivent pas le même modèle que nous. Mais ce qu'on a peut-être ignoré et sous-estimé, c'est en effet la situation dans quelques pays qui sont rentrés dans l'Union européenne il y a aujourd'hui plus de 15 ans, que la pression sur les sociétés par ce changement rapide était très importante et une certaine perte de perspective et une crainte que l'Europe finalement ne remplit pas toutes ses promesses pour les citoyens dans ces pays-là. En plus, les peurs de la migration, nouvelle expérience, ce que c'est la migration des pays qu'ils n'ont jamais connus. Alors tout ça a créé une situation qui aujourd'hui mène à des débats qui sont plus durs en Europe de l'Est par rapport aux sociétés ouvertes, par rapport à l'autoritarisme de quelques leaders en Europe de l'Est. Et tout cela aujourd'hui donne l'impression que peut-être c'était trop tôt ou trop rapide qu'on les intègre dans l'Union européenne. Mais à mon avis, il faut vraiment qu'on regarde les pays cas par cas. Et surtout, ils ne font pas juger parce qu'il y a un gouvernement du style de Viktor Orban ou du parti PiS en Pologne que les citoyens sont du même avis. Évidemment, ils les ont élus. Mais si on regarde bien dans les sondages, il n'y a pas une majorité qui est contre l'Union européenne. Il y a quand même une opposition qui est très claire, qu'ils soutiennent les mêmes principes et les mêmes valeurs que les autres pays de l'Union européenne.
Sébastien Magnard, vous vouliez réagir, je ne sais pas sur ce qu'a dit Giulio Lampoli, Yvan Tangeni ou Daniela Schwarzer.
Ensemble, parce qu'effectivement, si on regarde la charte européenne des droits fondamentaux, qui est un peu le socle sur lequel on se retrouve, la Hongrie ou la Pologne n'ont pas le monopole effectivement des atteintes aux droits de l'homme ou au respect de l'état de droit. Moi, je pense par exemple à la loi que le Parlement danois a récemment votée pour traiter les demandes d'asile à l'extérieur de son territoire. Il n'y a pas trop à quoi s'en glorifier. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde les populations des pays comme Hongrie ou Pologne, je crois que pour eux, l'Europe existe. Ils sont d'ailleurs, les Polonais sont beaucoup plus europhiles que les Français aujourd'hui. Et pour eux, après la chute du mur, rejoindre l'Union européenne, c'était vraiment rejoindre la famille européenne. Donc il y a vraiment un vrai attachement à l'Europe et c'est des sociétés qu'il ne faut pas effectivement réduire à leur seul gouvernement entre les villes.
Qui sont des épiphénomènes selon vous ?
En tous les cas, qui sont territorialement marqués selon les régions de ces pays, mais si on regarde dans les grandes villes par rapport aussi aux campagnes, dans le nord ou l'est de tel pays, on parle parfois d'une Pologne A ou d'une Pologne B. Je pense que la situation est beaucoup plus éclatée et nuancée qu'on veut bien le dire. Mais pour revenir à votre question initiale sur comment est-ce que l'Europe peut exister face au monde un peu de brut qui nous entoure, je pense qu'on n'a jamais tant pris conscience que nous existions comme Européens, qu'on a pu prononcer même un « nous » européen pendant ces années Trump, où on a vu effectivement qu'on n'avait pas forcément la même façon de traiter le commerce ou les affaires du monde, le multilatéralisme que les autres. Et on prend beaucoup plus davantage conscience de nos valeurs communes aussi, au-delà de ces différences dont on parle, dans de tels moments. Et autant vous aviez au début de l'émission rappelé les grands temps forts de la construction européenne qui ont effectivement été faits pour vraiment la paix entre nous, le marché intérieur, la monnaie unique, pour les échanges entre nous. Aujourd'hui, on voit bien que ces atouts, on veut les faire valoir par rapport au reste du monde pour définir notre rapport au monde. On est un marché hyper important, incontournable, et c'est ça le levier qu'on doit mettre en avant pour introduire un nouveau rapport de force entre nous et le reste du monde.
Yves Bertoncini, on arrive un peu au terme de cette avant-dernière émission. Si l'Europe n'existait pas, en tout cas, elle a une très grande résilience, parce que quand il y a eu le Brexit en 2016, on a dit tout le monde, voilà, le Brexit, c'est le premier domino qui tombe, et puis après, il va y avoir tous les pays. Et puis, on a constaté que, évidemment, le Brexit n'avait pas fait de petits.
Non, bien au contraire, c'est une contre-publicité. Alors, ça rappelle juste que c'est démocratique, c'est pas une prison des peuples, hein, l'Europe. On y rentre ou on en sort, la preuve. Et je dirais que c'est une expérience in vivo, là, on va voir. Et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ce n'est pas n'importe quel pays. Moi, je lui souhaite de s'en sortir. Bien sûr qu'il va s'en sortir, mais on verra s'il s'en sort mieux dehors ou pas, on le verra. Voilà. Et en tout cas, il a pu sortir. Les autres peuples ont voulu rester. Alors, il n'y avait pas la même spécificité britannique, l'histoire, la géographie et tout le reste, les circonstances. Il n'était pas dans le marché, dans l'union économique et monétaire, parce que sortir de l'euro, c'est quelque chose qui est encore plus cataclysmique dans l'esprit de nos concitoyens. Pas dans Schengen non plus. Donc, je veux dire, ils étaient déjà les plus près de la porte de sortie. Mais non, ça agit comme une contre-publicité. Nos peuples veulent rester ensemble. Simplement, je crois que, comme l'a rappelé Sébastien, plus on regardera ensemble dans la même direction, c'est-à-dire en dehors, la planète, les défis, hein, climatiques en particulier, sécuritaires, géopolitiques, migratoires et ainsi de suite, plus on trouvera du sens à notre unité. Bien sûr, ça sera toujours difficile puisqu'il faut faire des compromis, il faut négocier, il y a 27 démocraties, c'est à ça qu'on reconnaît l'Europe. Parce que la Pologne et la Hongrie, elles ne sont pas figées dans l'éternité, il y aura des élections libres. Alors qu'en Chine, on fête ces jours-ci les 100 ans du Parti communiste chinois. Donc c'est sûr que ça se règle à l'intérieur d'un cénacle partisan. Donc l'Europe n'est pas immuable, les démocraties nationales non plus. Mais si on arrive à s'unir, on pourra relever un autre défi qui n'est pas que le défi démocratique, qui est le défi de l'efficacité. Parce que c'est aussi ça qui met en doute maintenant nos concitoyens. C'est-à-dire, au fond, c'est vrai, il y a des contre-modèles, c'est clair, c'est net, c'est autoritaire, au moins ça délivre, comme on dit, hein, en mauvais français. Donc là, il faut quand même, l'Europe y arrive, hein. Elle prend des décisions. Le plan de relance, c'est une décision récente assez marquante. Mais c'est vrai que ça donne souvent un spectacle de désunion, de division, de tergiversation, qui certainement pâtit. À la fois, moi, je le trouve positif, ça illustre le caractère démocratique de l'Union européenne, mais point trop n'en faut. Il faut qu'à un moment, il y ait de l'efficacité. Et si, par exemple, on parle de ce plan de relance, l'argent qui arrive, des choses concrètes qu'on puisse observer. Et ça fera beaucoup, je crois, pour confirmer, non pas seulement le désir d'appartenance qui est majoritaire dans les 27 populations, mais aussi le désir d'engagement et d'approfondissement de la construction européenne.
Julien Diampoli, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin. Bon, vous vous êtes présenté un peu comme l'Italien pessimiste. On va voir si à la fin de cette émission, vous êtes un peu plus optimiste. En tout cas, l'Europe peut-elle cesser d'exister? Est-ce qu'elle peut disparaître? Est-ce que ce serait le suicide des Européens si l'Union européenne s'effondrait?
Non, moi non plus. Oui, pessimiste, oui, mais quand même pas jusqu'à ce point. En plus, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire, je pense qu'on a une vraie fenêtre d'opportunité parce qu'on voit bien que cette crise de la dernière année et demie a remis à plat beaucoup de choses. Ça a été une vraie crise existentielle, je crois, en même temps pour les individus et pour nos sociétés. Et au niveau européen, ça, on l'a dit pendant toute l'émission, ça a remis à plat beaucoup de choses, ça a permis des avancées qui n'étaient pas concevables hier. On voit bien qu'il y a quand même une convergence aujourd'hui sur l'idée européenne. Moi, si je regarde mon pays, c'est la première fois depuis beaucoup d'années qu'en Italie, au lieu d'avoir une dynamique centrifuge, on a une dynamique centripète, que même des gens qui étaient, comme Matteo Salvini par exemple, qui étaient très fortement anti-européennes, reviennent un peu forcés, un peu évidemment, c'est la promesse de la manne financière, donc ce n'est pas gagné parce que il y a les problèmes dont on a parlé, mais quand même on revient, on voit bien que Madame Le Pen l'année prochaine elle affrontera sa campagne présidentielle sans ambiguïté sur le thème de l'euro et de l'Europe parce que ça lui a fait beaucoup du mal il y a 4 ans. Donc on voit bien que toute une série de voix et toute une série de débats qui étaient en train d'essayer vraiment de miner à la base et l'idée européenne. Pendant cette crise, elles ont été, pour plusieurs raisons, parce que l'agenda a changé, parce que leur propre, disons, incapacité de faire face et de proposer des solutions a émergé de façon évidente. Pour beaucoup de raisons, elles n'ont plus trouvé de place. On l'a vu en Allemagne aussi et dans d'autres contextes. Donc là, on a vraiment une occasion extraordinaire de réinjecter de l'énergie dans ce projet. Mais je crois que c'est important de revenir à votre première question, c'est-à-dire il faut vraiment se rappeler que nous sommes en train de parler d'une aventure de courage, visionnaire, quand même la grande aventure politique, une des grandes aventures politiques mondiales
du 20e siècle.
Et peut-être du 21e siècle. Et donc c'est vraiment très important qu'aujourd'hui, où on a beaucoup on a un plan de relance, on a des politiques publiques, on a des choses qui se passent au niveau européen, mais il faut vraiment que ce sens d'aventure et de courage rentre dans le dessin aussi.
Alors on dit toujours que l'Europe progresse dans la crise, on peut espérer qu'elle progresse beaucoup plus vite et beaucoup mieux dans les grandes crises, et on vient d'en connaître une très grande. Yves Bertoncini, Giuliano D'Ampoli, Sébastien Maillard, Daniela Schwarzer, merci à tous les quatre d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Muni avec Valentin Scholz de Courrier International et la complicité de Kevin Bailly. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe RFI.fr rubrique podcast, vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast de Carrefour de l'Europe via votre plateforme préférée, par exemple Google, Apple ou Deezer. On reste en contact, bien évidemment, via Facebook et Twitter. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour mon dernier Carrefour de l'Europe et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.